France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors que le président américain a inventé un attentat en Suède, après avoir regardé un reportage sur l'immigration en Scandinavie sur Fox News, on peut s'étonner hein, d'ailleurs de l'impact de la télévision chez les puissants. Étrange que Donald Trump fasse un raccourci aussi effrayant et qu'il s'en vante. Parce que vous savez, quand on regarde la télé, hein, il faut quand même avoir l'esprit critique, savoir prendre du recul, faire preuve de décryptage. Heureusement, par exemple, certains nous aident, comme RMC Découverte, qui, par exemple, ce week-end, nous a appris que les pyramides Maya étaient l'œuvre d'extraterrestres. Au moins, ça, c'est clair et net. Et là, on est fixé. Et eux, ils ne sont en rien une rumeur. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la coordinatrice du parti de gauche, Danielle Simonet. Bonsoir.
Bonsoir.
Également, Bruno Roger Petit. Bonsoir. Vous êtes bonsoir. Éditorialiste à challenge.fr. Michel Urvois de West France. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu.
Et également Raphaël Stainville de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir nous parlerons d'un divorce, hein, d'un non-mariage, celui de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Nous parlerons également de la police qui se privatise de plus en plus. Mais juste avant, nous recevons Maëlle de Calan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes élu républicain de Roscoff, dans le Finistère. Et auteur d'un livre intitulé « La vérité sur le programme du Front National » publié chez Plon hein, l'année dernière. Alors et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui sur France Info, c'est le dossier de candidature de Marine Le Pen. L'idée de ce dossier de candidature, c'est de passer le programme et la politique d'un candidat au crible. Jeudi dernier, c'était Benoît Hamon. Lundi prochain, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Puis ensuite, Emmanuel Macron. François Fillon, normalement. Et donc, aujourd'hui, c'est le tour de la présidente du Front National, 48 ans, conseillère régionale des Hauts-de-France, députée européenne, candidate à la présidentielle pour la deuxième fois et spécialiste des gestions de crise familiale. Alors, Marine Le Pen, aujourd'hui, est un peu la favorite hein, du premier tour. Mais d'après vous, Maëlle de Calan, le programme économique du FN, au moment où vous l'avez étudié et maintenant, est-ce qu'il a changé ?
Non, il n'a pas changé dans ses grandes lignes. Il n'a pas changé déjà sur un point capital qui résume déjà tout l'esprit dans lequel le FN a construit son programme. C'est que Marine Le Pen promet avant tout à chacun exactement ce qu'il a envie d'entendre. Et ça, c'est quand même le marqueur qui permet de qualifier le FN comme d'ailleurs l'extrême gauche, hein, à mon sens, de parti populiste. C'est que il s'adresse à différentes clientèles et il regarde quelle est l'expression de la plus forte colère qui est manifestée par cette clientèle et il y répond en lui promettant ce qu'il a envie d'entendre. Mmh. Et donc, appliqué aux questions économiques, le programme de Marine Le Pen promet à ceux qui payent des impôts moins d'impôts, à ceux qui bénéficient de la dépense publique plus de dépenses, à ceux qui souffrent de la mondialisation, qu'ils sortiront de la mondialisation, et à ceux qui travaillent dans les grandes entreprises mondialisées, qu'ils aideront ces grandes entreprises au travers d'une grande planification stratégique.
Alors, juste une chose, pourtant on a dit que Marine Le Pen avait vraiment travaillé son programme économique. Alors, après on l'avait vu, c'est vrai, sur France 2, l'émission politique, elle s'est un peu fait coincer dessus, mais apparemment là c'est vraiment pour elle la pierre vraiment angulaire, puisque le reste on le connaît assez. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui le FN s'est crédibilisé sur cette question ?
Alors le FN a cherché à se crédibiliser dès l'élection précédente, dès 2012, déjà en publiant un programme, ce qu'il faisait de manière un peu aléatoire aux élections précédentes. Il y avait un vrai programme qui faisait plusieurs dizaines de pages d'une part, et d'autre part en cherchant à chiffrer ce programme. Ils l'ont fait en 2012, ils ont réédité l'expérience là, il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Maintenant quand on regarde dans le détail et la nature des propositions et le chiffrage qui est fait de ces propositions, le FN en est resté à un degré de généralité absolument invraisemblable. Je vous donne un exemple. Il promet des dépenses et beaucoup d'argent public à peu près à tout le monde. La retraite à 60 ans coûte un peu plus de 20 milliards d'euros. Il promet l'augmentation de toutes les dépenses liées au logement, liées à la famille, etc. Donc beaucoup d'argent public pour tout le monde. Et en face, comme il promet aussi le retour à l'équilibre budgétaire, il promet des économies complètement fantaisistes, complètement imaginaires, liées à l'arrêt de l'immigration ou retour à une situation de sécurité.
Alors, Danielle Simonet, quand vous entendez, justement, ça, on dit souvent le programme du Front National, ah bah, c'est la gauche dans les années 80.
Non, c'est totalement faux, parce que on ment énormément hein, sur le programme du Front National. Le programme du Front National, par exemple, est un programme finalement très capitaliste dans le cadre national et aussi avec beaucoup de mesures libérales. On a voulu faire croire, par exemple, que le Front National promettait d'augmentation des salaires. Or, le Front National ne propose absolument pas l'augmentation du SMIC. Il propose, par contre, voilà, un allègement des cotisations sociales sur les bas salaires, ce qui n'est pas du tout la même chose. Sur la question de la retraite à 60 ans, vous avez dit que le Front National promettait la retraite à 60 ans, mais pas du tout.
Avec 40 annuités de cotisation.
Marine Le Pen a dit et redit à plusieurs reprises qu'elle promettait de le faire si c'était viable et qu'on arrivait à baisser le niveau de dépenses publiques. Et elle a même eu des phrases et des déclarations qui laissent à montrer que finalement, le peuple pourrait comprendre qu'on ne puisse pas le faire parce qu'on ne pourrait pas suffisamment baisser les dépenses publiques pour arriver à la retraite à 60 ans. Donc en fait, à chaque fois, c'est énormément de contradictions. Finalement, surtout le programme du Front National ne s'attaque pas à la finance, ne cherche pas à nationaliser les banques pour avoir la main là-dessus et ne s'attaque pas du tout à l'actionnariat dans l'entreprise.
Maïd Le Callan, et après, je voudrais entendre.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je suis un peu spectateur dans cette guerre entre l'extrême gauche et l'extrême droite.
Non, mais je ne suis pas extrême gauche.
Repéré beaucoup de points communs, notamment en matière économique. Il y a effectivement la volonté d'augmenter les salaires de manière absolument arbitraire, alors de manière plus importante chez Mélenchon que chez Le Pen. Mais dans les deux cas, on donne un gros coup de pouce à ceux qui travaillent au SMIC. Et on peut le comprendre, c'est-à-dire que beaucoup de gens soient séduits par cette mesure, parce que effectivement, au SMIC, c'est très difficile de vivre, on le sait très bien tous autour de la table.
Mais pas
la question,
du tout,
c'est
hein.
est-ce que c'est simplement c'est possible fou. Sur la nationalisation des banques, sur le retour à l'administration des prix dans des secteurs entiers de l'économie, les transports, l'énergie. Marine Le Pen le propose et Jean-Luc Mélenchon l'a proposé
alors,
aussi.
On va y revenir dessus, mais juste avant, Bruno Roger Petit, on a vu le Front National travailler sur cette question économique. C'était la chose qui pouvait finalement le faire accéder au second tour et voir gagner dans l'idée de Marine Le Pen, être crédible là-dessus, davantage que de parler encore d'immigration.
C'est bien là toutes les limites au débat qui touche sur la validité des programmes. C'est-à-dire que ce que dit Maëlle de Calan, beaucoup de gens le disent, que le programme économique du Front National, dans tous ses aspects, notamment européen et social, est une aberration et que c'est absolument atterrant. 26% dans les intentions de vote, 27% dans certains sondages. Quel que soit le rabâchage des uns et des autres sur toutes les antennes pour expliquer que le programme du Front National n'est pas viable. Non mais c'est une réalité.
C'est vrai et en même temps c'est peut-être pour ça que le FN peine à progresser, même s'il progresse.
C'est ce que j'allais dire.
Parce que des gens regardent les programmes.
C'est ce que j'allais dire.
Ils décident que tout ça n'est pas
raisonnable. C'est exactement ce que je voulais dire.
Allez-y, Bruno, j'ai payé. Allez-y, terminez.
C'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que au premier tour, ça marche. Mais au second, effectivement, la réalité politique, le plafond de verre sur la crédibilité économique, notamment vis-à-vis des électeurs, les Républicains, survient.
On va continuer en parler dans un instant. L'info à 20h10, Laurent Sénéchal.
Une personne en garde à vue après l'explosion de milliers de bonbonnes de gaz à Jonquière dans le Vaucluse vendredi soir. C'est un ancien employé du site. Des bonbonnes ont été retrouvées cet après-midi dans sa voiture à une trentaine de kilomètres de la commune. Le siège du Front National à Nanterre perquisitionné aujourd'hui. Le parti de Marine Le Pen est visé par une enquête pour escroquerie en bande organisée. Ce sont des soupçons de salaire indûment versés à des assistants parlementaires d'eurodéputés FN. Une information judiciaire est ouverte à Paris depuis le mois de décembre. Le Front National dénonce ce soir sur France Info une opération médiatique. Le voleur surnommé l'homme araignée et deux receleurs condamnés à des peines de 6 à 8 ans de prison. L'homme araignée est parvenu à dérober 5 toiles de Picasso, Matisse ou Braque au musée d'art moderne de Paris. C'était en 2010. Les tableaux sont toujours introuvables. Les trois hommes doivent aussi payer 104 millions d'euros d'amende à la ville de Paris. Les pilotes d'Air France approuvent largement la création d'une filiale à Bakou. Une consultation a eu lieu tout à l'heure sur le projet contesté par les syndicats. 58% des pilotes ont donné leur accord. La participation était très forte. Près des trois quarts des pilotes ont voté. Angela Merkel obligée de reporter sa visite en Algérie à cause de l'état de santé du président Bouteflika. Il souffre officiellement d'une bronchite aiguë. L'exécutif algérien parle d'indisponibilité temporaire. Abdelaziz Bouteflika est affaibli depuis un AVC en 2013.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info dans le cadre de l'opération dossier de candidature, c'est Marine Le Pen aujourd'hui qui est passée au crible et notamment son programme économique. Une petite parenthèse, Michel Urvoy, aujourd'hui il y a eu une perquisition au siège du Front National dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que ça peut aller loin cette affaire, comme on a pu voir avec l'affaire Fillon, et finalement aujourd'hui embêter le Front National au niveau politique?
Alors vous avez raison d'en parler parce que je pense que cette affaire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que François Fillon à subir les assauts médiatiques et politiques contre les pratiques qui lui sont reprochées. Je pense que ce qui est reproché au Front National, puisqu'il y a plusieurs élus,
oui,
il y a
sûr.
Marine Le Pen et d'autres élus européens, est largement aussi grave. Les sommes en jeu sont extrêmement importantes et même si la défense consiste à nier l'invention totale de cette affaire-là, personne ne la croit. Donc je pense que sur la seconde partie de la question,
oui.
Je pense que ça n'a pas du tout le même effet que sur l'électorat de François Fillon. Je pense même que voler l'Europe, c'est commettre un acte positif pour une partie de cet électorat-là. Donc, voler son ennemi, voilà, ce serait une bonne action.
Raphaël Saint-Ville.
Oui, je pense que c'est pas de nature à troubler l'électorat du Front National, qui est dans une posture anti-système et donc qui voit la main du système médiatique et qui est très habitué à manier les slogans du complot. Et donc, finalement, cette victimisation de la présidente du Front National, finalement, ça viendrait presque servir et appuyer le fait qu'elle est la candidate anti-système. Je pense, je ne vais pas dire que ça arrange absolument les affaires de Marine Le Pen que d'être dans des affaires judiciaires, oui, en pleine campagne, mmh, mais elle a les ressorts pour pouvoir instrumentaliser ces attaques qui viennent contre elle. Pour en revenir avec justement sur le cœur du sujet qui est la viabilité du problème du Front National, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'en fait, pour l'électorat Front National, c'est beaucoup moins un ressort, quelque chose qui compte que Marine Le Pen puisse avoir des propositions chiffrées, que finalement le bilan des différentes majorités qui sont succédées, qu'elles soient socialistes. Et moi, je me souviens très bien, mais le Calan, dans Valeurs Actuelles, au moment de la sortie de son livre, avait fait étal d'un certain nombre de démonstrations visant à montrer un peu la faiblesse du programme du Front National. Et la réponse de Philippot à Florian Philippot à l'époque, était justement de renvoyer au bilan systématique de François Fillon.
Alors voilà, mais le problème, c'est qu'après, si on veut gouverner, il faut quand même... Mais juste une chose, parce qu'il y a quand même un point qui est important, c'est en 2012, pour le Front National, dans la campagne présidentielle Marine Le Pen, un chapitre entier était consacré à la disparition de l'euro. Cette fois-ci, l'affaire, en fait, est un peu évacuée en une demi-phrase, hein, c'est rétablissement d'une monnaie nationale, levier de notre compétitivité et adapté à notre économie. En fait, le mot « euro » n'existe plus.
Absolument. Et d'autant plus que c'était un sujet qui effrayait énormément une partie importante de l'électorat, c'est-à-dire tous ceux qui ont de l'épargne. La sortie de l'euro, à laquelle le FN est toujours très attaché, c'est sortir de l'euro pour dévaluer la monnaie, pour lui faire perdre une partie de sa valeur, ce qui veut dire que tous ceux qui ont de l'épargne en France, en particulier les retraités, perdent jusqu'à un quart de leurs économies, puisque Marine Le Pen voulait dévaluer son nouveau franc de 25%. Donc le FN, à chaque fois qu'il l'a pu, a poli des éléments de son programme. Il a fait sortir explicitement le mot « sortie de l'euro » de son document. Il parle plus de la peine de mort. Donc il y a des angles, si vous voulez, qui ont été limés. Mais l'essentiel y est, et notamment la volonté de sortir de l'Union européenne pour lancer une guerre commerciale avec le reste du monde et de sortir de l'euro pour dévaluer la monnaie, retrouver soi-disant de la compétitivité, mais en réalité ruiner les épargnants. Là aussi, il y a un point de convergence assez fort avec l'extrême gauche.
Non, absolument pas. Simonet.
Non, absolument pas, parce que quand Marine Le Pen parle encore de la sortie de la zone euro, mais en même temps du maintien d'une monnaie commune, elle parle de taux de change fixe et à chaque fois, elle ne dit mot sur la nécessité, par exemple, de nationaliser des banques.
C'est pas vrai, elle en parle,
de pouvoir gouverner face à la finance. Donc ça, elle n'en parle pas.
Si.
Et donc, elle ne se donne pas les moyens de s'attaquer à la finance. Et surtout, elle a un programme totalement antisocial, puisque elle est pour remettre en cause les 35 heures, revenir aux 39 heures. Elle ne veut pas augmenter le SMIC. Elle ne veut pas de retour à la retraite à 60 ans à taux plein. Ça n'est pas vrai, parce qu'elle est déjà en train d'annoncer qu'elle ne pourra pas le faire. Donc, elle a un programme, d'ailleurs, qui va à l'encontre de la reconnaissance de la nécessité du fait syndical dans les entreprises. Elle a un programme antisocial.
C'est amusant d'ailleurs de vous entendre vous démarquer en quelque sorte du programme de Marine Le Pen, un peu comme si vous étiez l'un et l'autre en concurrence.
Je réponds aux inepties que vous avez sorties. Et sérieusement, évidemment, le Front National, comme les fascistes dans les années 30, essaye de repiquer des mots du mouvement social, de la gauche, pour faire croire et puis essayer d'habiller le contenu extrêmement raciste. Alors, je veux dire, le Front National veut quand même constitutionnaliser la préférence nationale, un programme extrêmement, extrêmement dangereux.
Moi, ce que je constate, c'est que ce programme prétend résoudre la quadrature du cercle.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a de la dépense en plus de manière assez considérable, de l'ordre de 145...
Et il y a en même temps la politique d'austérité.
150 milliards. Il y a un coût de la sortie de l'Europe qui se chiffre en quelques dizaines de milliards. Et on a en même temps, vous avez parlé de l'épargne, mais c'est 140... Et on a un équilibre des comptes publics. Et le tout est financé comment ? Il est financé par une augmentation de la fiscalité, évidemment. Mmh. Donc je pense que... Et si on ajoute à ça un protectionnisme qui fait qu'on freine nos exportations et que nos importations sont renchéries, c'est un appauvrissement général du pays qui nous est programmé.
Bruno Roger-Petit, quand on voit aujourd'hui une photo d'identité de la France, la réflexion de Marine Le Pen, c'est de dire, bon, il y a eu le Brexit, il y a Donald Trump, la prochaine c'est moi. Est-ce que pour vous, on est dans le même cas de figure avec les populistes français qu'ailleurs dans le monde ?
Pas tout à fait, parce que la stratégie du Front National, ce n'est pas nécessairement de viser la victoire sur cette élection présidentielle-là. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt sur un cap 2022. Je m'explique. L'objectif de cette... Alors, bien sûr que s'ils peuvent prendre la victoire-là, ils la prendront. Mais dans leur esprit, c'est pas maintenant. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de désigner un nouvel adversaire dans le camp progressiste ou à gauche. Et ça, Marine Le Pen le fait sans arrêt, c'est Macron. Donc on enjambe la droite républicaine classique, en profitant des difficultés de François Fillon. On souhaite la victoire de Macron au Front National aujourd'hui, clairement. Parce que ça provoquera un électrochoc, dont la droite, les Républicains, sortira plus qu'affaiblie. Et aux législatives suivantes, l'objectif du Front National, qui est en fait de devenir ce qu'était autrefois le RPR, c'est-à-dire le grand parti de la droite populaire, des petites gens, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, etc. Bon, ce sera de casser autant que faire se peut les Républicains pour qu'enfin soit instaurée l'idée qu'à droite, l'avenir, parce que en position de prééminence, c'est le Front National. C'est ça l'objectif. Je ne vous dis pas que ça va réussir.
Ouais, bien sûr, c'est
je
ça.
Ne vous dis pas que c'est cousu de fil blanc. Ouais, ouais. Je vous dis que leur stratégie, dans leur esprit, c'est préparer 2022 à partir de 2017 en cassant la droite traditionnelle.
Voilà,
du Mitterrand.
Voilà, petit cours de stratégie politique par Bruno Roger Petit. Merci beaucoup, Maëlle Le Calandre, d'être passé ce soir aux Infos et France Info. Je rappelle votre livre, La Vérité sur le programme du Front National chez Plon. Dans un instant, on partira à gauche où on parle déjà de divorce. C'est incroyable. L'info à 20h20, c'est Laurent Sénéchal.
Perquisition au siège du Front National à Nanterre, près de Paris. Les enquêteurs cherchent des preuves sur les soupçons de salaires indûment versés à des assistants parlementaires d'eurodéputés FN. Une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée est ouverte depuis fin décembre à Paris. Après l'explosion de milliers de bouteilles de gaz vendredi à Jonquière dans le Vaucluse, la police interroge ce soir un suspect. C'est un homme de 31 ans qui a travaillé sur le site par le passé. Des bonbonnes ont été découvertes cet après-midi dans sa voiture à une trentaine de kilomètres de Jonquière. Un policier bientôt jugé pour viol dans une affaire similaire à l'affaire Théo. C'est un policier municipal qui devait comparaître aujourd'hui pour violence après l'interpellation d'un jeune à Drancy en 2015. Mais le tribunal de Bobigny a décidé de requalifier cette affaire et de renvoyer le policier aux assises. Le parquet, comme la défense, ont encore 10 jours pour faire appel. Une large majorité des pilotes d'Air France approuvent le projet Boost. C'est une filiale à Bakou qui doit voir le jour. 58% des pilotes ont donné leur accord aujourd'hui dans une consultation interne. Les syndicats sont très opposés. La principale organisation, le SNPL, prend acte de ce vote. Benoît Hamon et Yannick Jadot se sont vus aujourd'hui pour tenter de parvenir à une candidature commune, mais le socialiste et l'écologiste n'ont pas trouvé d'accord. On en est même très éloigné, selon le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cambre.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
On va parler de la gauche, Bruno Roger Petit, dans un instant, justement. Allez, avec la coordinatrice du parti de gauche, Danielle Simonet, Bruno Roger Petit, donc éditorialiste à challenge.fr, Michel Urvoy de West France et Raphaël Stainville de Valeurs Actuelles. On dit souvent que notre époque manque de romantisme et ce n'est pas faux. On a encore pu le voir ce week-end. Benoît Hamon, fort de sa victoire à la primaire, de la belle Alliance Populaire, s'est senti un peu l'over, voilà, faut bien le dire, hein, il a essayé de séduire Yannick Jadot, ça pourrait réussir, mais alors pour Jean-Luc Mélenchon, alors là c'est vraiment autre chose. Hein. Il aura tout fait, hein, chemise à jabot, sérénade au balcon, grignotage de merguez au stand Koubassi, à la fête de l'Huma, billet doux, bref, tout en tout cas, mais rien à faire, Jean-Luc et Benoît ne convaincront pas ensemble, et désormais les mots sont plutôt durs entre eux, et notamment Jean-Luc Mélenchon.
Ce qui dérange et qu'on met sous le tapis, c'est les raisons pour lesquelles les socialistes ont perdu la moitié de leur voix. Donc je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard.
Voilà, c'est dur. Donc ça, c'était hier sur BFM. Et Benoît Hamon, lui, qui décrit cette fin d'histoire qui aurait pu être une belle histoire d'amour avec une métaphore automobile, Benoît Hamon.
Voilà, bon. Poser des conditions qui sont des conditions fortes. C'est vrai que si on fait du covoiturage et qu'on décide que l'on conduit, la couleur des sièges et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement le covoiturage dans ces conditions-là. Mais moi, je considère aujourd'hui que je dois me placer au-dessus de cela.
Voilà, donc c'était Benoît Hamon hier sur RTL. Alors, Daniel Simonet, c'est vrai qu'on parle de divorce entre les deux hommes, mais est-ce qu'à votre avis, au départ, il y a véritablement eu une envie entre les deux d'union ?
Il faut reprendre quand même la chronologie. Benoît Hamon, pendant la campagne interne des primaires, a annoncé que dès qu'il serait désigné candidat du Parti Socialiste, il contacterait Jean-Luc Mélenchon. Il a gagné ses primaires avec un vote de celles et ceux qui ont participé à ces primaires, qui était à la fois on se débarrasse de Manuel Valls, mais on se débarrasse de cette politique-là, avec une aspiration dégagiste d'une politique marquée à gauche. Bon. Il aurait pu poursuivre sur cette vague-là. Depuis, toujours pas de contact.
Donc vous le confirmez, il n'y a pas eu vraiment
eu de contact. Il n'y a pas eu de contact. Donc Jean-Luc Mélenchon a ensuite fait une petite vidéo en disant « Mais je suis disponible pour un petit café ». Bon, toujours pas de contact. Ensuite, à Strasbourg, il a sorti son agenda. Jean-Luc Mélenchon en disant « Mais voyons-nous ». Il a même, donc vendredi, envoyé une lettre
oui.
permettant de préciser les garanties. Parce que c'est un travail sérieux d'avoir une discussion politique. Ouais. Et honnêtement, vous riez, mais prenons ça au sérieux. Si Monsieur Benoît Hamon assumait véritablement d'aller jusqu'au bout de ce que signifie ce vote à la primaire du PS, qui est de dire on veut en finir avec cette politique, tourner la page du quinquennat et on y croit à l'abrogation de la loi travail, eh bien il ne peut pas à la fois être le candidat à l'élection présidentielle du Parti Socialiste et participer pour les législatives avec tous les candidats du Parti Socialiste, les anciens ministres. C'est un manque de cohérence parce qu'il sait pertinemment qu'il n'aura pas une majorité pour abroger. Et ce week-end, juste une phrase, il a assumé ce week-end de nous dire que finalement il n'abrogerait pas la loi El Khomri.
Oui,
c'est peut-être pour ça que
Michel Urvois,
il revient sur ses engagements.
Michel Urvois, est-ce que finalement, vous-même qui observez la vie politique, à un moment, vous y avez cru ?
Pas un instant.
Très bien, mince.
Pas un instant pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas le même intérêt, la même stratégie. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon est de casser cette gauche dont une partie lui est absolument insupportable, et je le comprends tout à fait. La deuxième, c'est une querelle personnelle. Il n'y a pas de leader incontestable, comme il y avait un François Mitterrand en 1981 pour organiser un programme commun avec des différences qui étaient d'ailleurs au moins aussi importantes qu'aujourd'hui. La troisième chose, c'est qu'on ne peut pas réunir des gens qui ont passé 5 ans à se détester violemment. Ça a commencé le jour de l'élection de François Hollande. Et avec le Parti Socialiste.
Avant, même avant la primaire.
Non, mais même oui, pendant
la primaire. Benoît Hamon aurait pu se dire, c'est vrai, comme je suis frondeur, je peux peut-être m'entendre avec des gens qui ont manifesté. Non.
Et puis il y a les différences programmatiques qui sont quand même extrêmement importantes. Enfin, il y a une partie du Parti Socialiste, quand vous discutez, fallait être à la réunion de groupe mardi dernier, c'était d'une violence extraordinaire.
Apparemment, voilà.
Benoît Hamon n'est pas venu.
Alors, juste, Raphaël Estaville, vous-même, sur cette alliance, alors est-ce que finalement les deux hommes, à votre avis, ont eu un moment l'idée ?
La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a divorcé de cette gauche-là et du Parti Socialiste il y a bien longtemps. Et donc, quand il dit qu'il ne veut pas s'accrocher à un corbillard, cette phrase, finalement, il l'a prononcée intérieurement en quittant le Parti Socialiste et en actant de la mort du Parti Socialiste qui s'était engagé en politique. Donc, je pense que dès le départ, les choses étaient presque cuites. La vérité, c'est que Benoît Hamon n'était pas le candidat de la gauche qu'il espérait. Il espérait que ce soit peut-être Manuel Valls ou un autre, et où il aurait pu éventuellement escompter sur un départ d'un certain nombre de socialistes ne se reconnaissant pas en Manuel Valls. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas produit. Effectivement, cette élection, c'est l'élection où tout est assez imprévisible et la nouvelle donne rend les choses absolument impossible entre les deux. L'un vise la rue de Solferino et l'autre veut la mort de cette gauche.
De la rue de Solferino.
Rue de Solferino. Alors justement, Bruno Roger Petit, est-ce que finalement
révolution idéologique,
est-ce que la non-alliance, ça marque la fin de l'hégémonie du PS aussi, finalement un peu sur la gauche.
Bien sûr, mais c'est tout l'enjeu de cette élection présidentielle là.
Pour la gauche.
Pour la gauche. Non, mais c'est une réalité. Et en plus, je trouve que la stratégie de Benoît Hamon, alors là, me sidère. Jean-Luc Mélenchon a raison de dire que le Parti Socialiste a perdu la moitié de ses électeurs. Il y en a qui sont partis chez lui, il y en a qui sont partis chez Macron. Bon, quelle est la stratégie d'Hamon depuis 15 jours? C'est d'essayer de faire croire, ça c'est typiquement un raisonnement socialiste qui n'a rien compris à l'élection présidentielle de la 5ème République, ce que Mélenchon lui a compris, c'est-à-dire on va faire des blocs. Ah bah tiens, alors nous on fait 14, Jadot fait 2, et puis Mélenchon fait 12, on va tous se mettre en doux ensemble, et on va faire 26, et hop, par miracle, on sera au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais c'est aberrant.
Ouais. Parce que c'est au nom de cette même arithmétique que vous... suggérer à Benoît Hamon de se désister pour, au profit de
Non, c'est différent. Parce que en quoi c'est atterrant? D'abord, il ne parle pas aux électeurs de Macron. Or, la moitié des électeurs de Macron, comme ça, à vue de nez, sont quand même des électeurs du Parti Socialiste. Alors eux, on ne leur parle plus. On les délaisse. On ne s'adresse pas à eux. C'est atterrant aussi.
Et on va continuer d'ailleurs en parler.
Ben on continuera
voilà. Mais vous inquiétez pas. Vous aurez toute la place pour en parler. Vous inquiétez
pas. J'ai pas fini mon développement.
Non, mais ça va être formidable. On parlera également un peu de la droite dans un instant, et puis aussi de la police. Voilà la suite du programme des Informés de France Info. On est très en retard, je le sais.
France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC performantes et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK. VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Souvent gris et humide demain, une exception quand même. Entre les Pyrénées, la Méditerranée, le sud des Alpes, ce sera encore très ensoleillé. On trouvera des nuages sur l'ouest de la Corse. Ça soufflera bien en Méditerranée, Mistral, Tramontane, jusqu'à 60 km à l'heure. Sur le reste du pays, un ciel couvert, parfois un peu de brouillard le matin, quelques gouttes de pluie du Bordelais à la Bourgogne. Entre la Normandie et la région parisienne également, un peu plus de pluie des Hauts-de-France vers l'Alsace, la Franche-Comté. On retrouvera quelques éclaircies l'après-midi entre le Pays Basque, le Midi Toulousain, l'Auvergne et le Nord des Alpes. Il fera encore un peu plus doux qu'aujourd'hui, le matin 4 à 9 degrés jusqu'à 10 à Paris, mais un peu moins vers le Massif central et les Alpes, seulement 1 à 3 degrés. L'après-midi, 11 degrés à Strasbourg, 12 à Lille, 13 à Paris et Dinard, 14 degrés à Bordeaux, 14 aussi à Lyon, 15 à Toulouse, 16 à Ajaccio et 20 degrés à Montpellier.
France Info. Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir, à la une ce soir, cette perquisition au siège du Front National à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Nouvelle perquisition dans le cadre de l'enquête ouverte pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé. Il s'agit de savoir si des assistants parlementaires de députés européens FN ont été rémunérés par Bruxelles alors qu'ils ne travaillaient en fait que pour le parti. C'est une perquisition médiatique à deux mois de l'élection présidentielle. Réagit ce soir sur France Info le vice-président du parti, Florian Philippot. Le dossier rappelle étrangement l'affaire Théo, un policier municipal soupçonné d'avoir agressé un jeune homme avec sa matraque lors d'une interpellation. C'était fin 2015, déjà en Seine-Saint-Denis, à Drancy. Jusqu'à présent, le policier était poursuivi pour violences aggravées, mais le tribunal correctionnel de Bobigny estime aujourd'hui qu'il doit être jugé pour viol devant une cour d'assises. Les pilotes d'Air France approuvent la création de Boost, filiale à coût réduit, à mi-chemin entre une low-cost et une compagnie traditionnelle. Ils ont dit oui à plus de 58% lors d'une consultation organisée par leur syndicat majoritaire, le SNPL, qui de son côté est contre ce projet de la direction d'Air France. Nous tiendrons bien sûr compte de ce résultat, dit ce soir sur France Info le président du syndicat, Philippe Évin.
Si on a posé la question aux pilotes, c'était justement pour tenir compte de leur avis, et c'est ce qui sera fait bien entendu, puisque nous prenons acte de cette réponse qui est claire, ça ne fait pas peur aux pilotes de créer une nouvelle filiale. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le projet d'accord lui-même, il n'est effectivement pas abouti, il a encore beaucoup de lacunes, nous aurons l'occasion d'en discuter lors de notre conseil de mercredi. De toute évidence, il y aura encore des discussions avec Air France parce qu'il y a un grand nombre de de problèmes qui ne sont pas encore traités par le projet d'accord qui nous a été soumis par la direction, des problèmes très importants, notamment celui qui est très cher aux pilotes de la délocalisation de notre activité en Hollande, du périmètre d'activité et des conditions juridiques du contrat.
Philippe Évin, président du SNPL, le premier syndicat des pilotes de ligne chez Air France. Les discussions continuent entre Benoît Hamon et Yannick Jadot en vue d'un accord pour la présidentielle. Le candidat du PS et celui d'Europe Écologie Les Verts ont déjeuné ensemble ce midi dans une brasserie du quartier Bastille à Paris. La décision d'une éventuelle union devrait être prise d'ici à ce week-end et ensuite soumise au vote des militants écologistes. Donald Trump réclame aux alliés de l'OTAN de réels progrès d'ici la fin de l'année. Message transmis aujourd'hui à Bruxelles par le vice-président américain Mike Pence à ceux qui ne respectent pas le seuil de dépenses militaires à hauteur de 2% de leur PIB. Seuls 5 pays, dont les États-Unis, y sont parvenus pour l'instant, ce que Donald Trump a plusieurs fois critiqué. La justice égyptienne confirme les condamnations à mort de 10 supporters de football, des supporters impliqués dans les émeutes meurtrières du stade de Port Saïd. C'était il y a 5 ans, elles avaient fait 74 morts. Et puis les dirigeants de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Espagne seront réunis dans 2 semaines, le 6 mars à Versailles. Annonce de François Hollande aujourd'hui. Il s'agira de préparer les réformes de l'Union européenne. 20h33, la suite des informés de France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. C'est d'Audelinan sur le dance floor de l'actualité qu'ils sont venus s'installer autour de la table des informés de France Info. Ce soir, nous trouvons la coordinatrice du parti de gauche, Danielle Simonet, Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr, également Michel Urvois de Ouest France et Raphaël Stainville de Valeurs Actuelles. Nous parlons donc de ce divorce, on va dire ça comme ça, de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Juste avant le journal, Bruno Roger Petit, vous étiez en train de nous expliquer, quand je vous avais posé la question sur l'hégémonie, la fin de l'hégémonie finalement aujourd'hui du PS sur la gauche, qu'aujourd'hui c'était un parti écartelé.
Bah oui, écartelé et surtout coincé entre Macron et Mélenchon. Et avec, comme je le disais, des errements un peu tactiques de Benoît Hamon, qui pendant 15 jours a perdu du temps à ne pas faire campagne et en essayant de bidouiller cette espèce d'accord dont on savait d'ailleurs qu'il ne verrait pas le jour, ce qui est assez étonnant. Et avec aussi, alors il y avait l'idée chez certains hamonistes, que si Mélenchon ne venait pas gentiment à Canossa, eh bien, on se vengerait en l'empêchant éventuellement, je l'ai entendu dans la bouche de certains partisans de Benoît Hamon, on l'empêcherait de se présenter en lui squeezant les 500 signatures. D'accord. Ce qui me paraît absolument hors de propos et extrêmement problématique, mais certains caressaient cette idée. Voilà, c'est une information, je vous la livre telle qu'elle est. Donc je ne sais pas où ils en sont dans cette réflexion, je ne jouerai pas à cela, parce que c'est quand même assez problématique. Mais on en est là quand même, si vous voulez, dans le calcul où on se sert de l'élection présidentielle comme si effectivement il s'agissait d'un pré-congrès du Parti Socialiste. Et c'est assez étonnant.
Alors, justement, Danielle Simonet, en même temps, ce que dit Benoît Hamon, quelque chose où il n'a pas tort. Quand il met dans sa lettre, quand Jean-Luc Mélenchon parle, en effet, de la loi travail, on comprend bien. Mais quand après, par un peu de souci de provocation, il dit « ce n'est pas possible, si on est ensemble, de présenter Myriam El Khomri ou Manuel Valls », vous imaginez au sein d'une vie de parti, est-ce que c'est possible aujourd'hui de ne pas présenter l'ancien Premier ministre de la France ?
Mais est-ce que vous vous rendez compte que M. Hamon prétend abroger la loi El Khomri ? Mais il y a plus de 60% des candidats à la députation du Parti Socialiste qui ont été désignés, qui sont favorables à la loi El Khomri, c'est-à-dire qui seront contre l'abrogation. Et donc, comme par hasard, d'ailleurs, ce week-end, j'ai l'impression que Benoît Hamon a sacrément rétropédalé, puisqu'il n'est plus question d'abroger la loi El Khomri. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas répondre à la lettre de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en fait, en ce moment, pour préparer le congrès du Parti Socialiste, il est en train de donner des gages à M. Cambadélis, à M. Le Foll, à M. Cazeneuve et Hollande, qu'il a rencontré pour rassurer tout le monde qu'en fait, voilà, les éléments peut-être qu'il a dit lorsqu'il était en campagne interne, eh bien, finalement, il revient.
Ouais, c'est ça.
Comme ça mesure sur le Parlement de la zone euro, bon, bah, c'est vraiment la vieille tarte à la crème que le PS ressort depuis.
Il y a quelque chose qui est intéressant dans la séquence politique, c'est que on s'aperçoit que les primaires qui devaient être la martingale gagnante pour assurer soit au PS, soit aux Républicains la possibilité de se qualifier au second tour. C'était d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été conçu, créé. C'était vraiment pour s'éviter pour le PS un 21 avril en 2002. On voit que ça n'a servi à rien. Alors les Verts sont mis, ils sont prêts maintenant à se ranger derrière le candidat du Parti Socialiste qui, pour l'instant, reste désespérément quatrième ou cinquième dans les sondages.
Alors Michel, c'est ça, on a l'impression aussi que Benoît Hamon, finalement, comme il est parti en dernier, c'est normal par rapport au, par rapport à l'agenda et des emplois, et la primaire, pardon, qu'il a désigné en janvier, on a l'impression qu'il passe beaucoup de temps à faire la cuisine politique et il réagit très peu finalement sur l'actualité.
Ben oui, parce que tout son problème, c'est de trouver un semblant de majorité dans son camp. Mais Raphaël Steinville a tout à fait raison. C'est un effet de la perverse de la primaire. Il a été élu par la frange la plus mobilisée, donc la plus radicale, c'est peut-être un grand mot, mais la plus mobilisée, en tout cas, des socialistes. Et Manuel Valls a été victime d'une abstention des modérés du camp socialiste. Et donc, c'était un résultat qui n'était pas nécessairement prévu. On a d'ailleurs la symétrie à droite, d'une certaine manière, avec François Fillon. Et à partir de là, c'est extrêmement difficile de pouvoir se recentrer, surtout quand on cherche à faire à tout prix une alliance de la carpe et du lapin pour essayer de trouver cette majorité. Ça ne marche pas avec Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il va devoir
composer
avec les autres.
Mais du coup, il n'y a plus de
colonne vertébrale. Il n'y a plus d'orientation.
Est-ce que finalement, en 2017, une idée de gauche plurielle, finalement, comme on a pu l'imaginer, comme on l'a vu avec Yoann Jospin, c'est possible, Bruno Roger Petit? Est-ce que finalement, ça correspond à cette époque?
Ça dépendra du résultat de l'élection présidentielle. Si Emmanuel Macron rate, on restera son coup, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu président de la République là, le Parti Socialiste survivra, tant bien que mal. Si Emmanuel Macron est élu, c'est un tremblement de terre politique à gauche. C'est-à-dire qu'on entre dans une phase, il y a des députés socialistes qui vous le disent, d'effacement du Parti Socialiste. Et la reconstruction, la recomposition autour de la restructuration de la gauche avec un pôle, non pas d'extrême gauche, là je suis d'accord avec Mme Simonet, mais un pôle de gauche comme il y a toujours eu dans l'histoire de la gauche, et puis un pôle réformiste, social-démocrate, social-libéral, démocrate à l'américaine, tout ce que vous voulez, qui se construira autour d'Emmanuel Macron. Mmh. C'est vers ça qu'on va.
Daniel Simonet, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un moment un petit peu de panique quand même chez Jean-Luc Mélenchon par rapport même à des sondages? Je sais que les hommes politiques n'en regardent jamais les sondages. Mais par exemple, on a vu Jean-Luc Mélenchon se multiplier en meeting, à Lyon comme à Paris. Hier, sur YouTube, faire une émission de 5 heures, un peu à la Hugo Chavez, on peut presque, pour chiffrer son programme. Est-ce qu'à un moment, il n'y avait pas...
C'est le modèle.
Il n'y avait pas une manière d'accélérer? Est-ce qu'il ne fallait pas accélérer un peu les choses aussi?
Non, on est en campagne avec Jean-Luc Mélenchon et le mouvement La France Insoumise depuis un an déjà. Oui. On a un programme qui a été le fruit de plein de contributions, de plein d'auditions. Nous avons maintenant été en capacité de chiffrer. On développe ces meetings-là parce qu'on vient en campagne, parce qu'on a un objectif qui n'est pas un petit congrès du Parti Socialiste, mais qui est de fédérer le peuple. C'est pas rien.
Ah oui.
Et donc, bah oui, voilà. Oui. Donc, c'est pas le même objectif. Donc, forcément, on est en campagne. On est en dynamique, on est en mouvement et on a des éléments de fond programmatique à donner en réponse et en partage. Voilà. Comment est-ce qu'on convoque l'Assemblée constituante pour passer à la 6e République? Le plan A, le plan B sur l'Union européenne? Comment on distribue les richesses? Donc, on a des choses à raconter et à démontrer et à fédérer.
Allez, l'info à 20h40, c'est Laurent Sénéchal.
Une personne entendue par la police après l'explosion de milliers de bonbonnes de gaz à Jonquière dans le Vaucluse. Vendredi soir, des bouteilles ont été retrouvées cet après-midi dans sa voiture à une trentaine de kilomètres de la commune. C'est un ancien employé du site qui se livre à un petit trafic de bonbonnes. D'après le procureur, il aurait finalement un alibi crédible. La police perquisitionne le siège du Front National à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Une information judiciaire est ouverte pour escroquerie en bande organisée. La justice soupçonne le parti d'extrême droite d'avoir utilisé l'argent destiné aux assistants parlementaires européens pour rétribuer illégalement des employés du FN. 6 à 8 ans de prison pour le voleur surnommé l'homme araignée et ses complices. Les trois prévenus comparaissaient aujourd'hui pour le vol de 5 toiles de Picasso, Matisse ou Léger en 2010 au musée d'art moderne de Paris. Les tableaux sont toujours introuvables. Les trois hommes doivent payer en plus une amende de 104 millions d'euros à la ville de Paris. Après consultation, les pilotes d'Air France disent oui à la création d'une nouvelle filiale à Bakou. C'est le projet Boost porté par la direction. Les syndicats s'y opposent, mais les pilotes l'ont approuvé aujourd'hui à 58%. Ce n'est pas un blanc-seing, veut croire le principal syndicat, le SNPL. 1 million de Sud-Soudanais risquent la famine selon les Nations Unies. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays en 2011, le gouvernement déclare officiellement l'état de famine dans plusieurs zones du Soudan du Sud.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et juste avant de passer à notre prochain débat, pour être complet sur le petit topo quotidien de la présidentielle, Michel Urvon, on a appris aujourd'hui, François Bayrou, il allait convoquer la presse un mercredi prochain au siège du Modem, hein, pour nous dire, alors pour briser ce suspense intenable, savoir s'il allait se présenter ou non. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes donc en fin février, le premier tour c'est le 23 avril, est-ce que ça peut changer quelque chose, sa candidature ?
Oui, ça peut changer quelque chose, même s'il faisait un petit score, c'est-à-dire que je pense que ça peut compliquer la vie à Emmanuel Macron. Essentiellement.
D'accord. Voilà. Donc, c'est ça.
Mais donc, de cette manière-là, ça peut redistribuer les cartes aussi. C'est-à-dire que ça peut avantager François Fillon.
Raphaël Saville, pour vous, c'est quelque chose qui a un intérêt aujourd'hui, s'il y avait une éventuelle candidature de François Bayrou, ou c'est aussi finalement, on parlait d'ego mais... tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi de l'ego qui joue dedans?
Bien évidemment qu'il y a de l'ego. Il y a, au tout début janvier, dans Valeurs Actuelles, il confiait que il y avait la plus grande certitude qu'il serait, candidat. Bien évidemment qu'il y a de l'ego. Il est débarrassé de Nicolas Sarkozy. On lui aurait reproché d'y aller par pure vendetta. Mmh. Le candidat Fillon, finalement, pour lui, c'était presque une aubaine parce que tout d'un coup, il peut aller sur le combat des idées. Quand bien même, c'est voué à l'échec et qui risque de mettre en péril les derniers murs qui tiennent debout de la maison centriste.
Oui, Bruno Roger Petit, pour vous, c'est ce candidat finalement aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des familles, voilà le PS, les familles traditionnelles, là on se dit c'est la famille traditionnelle du centre, mais pourtant c'est un centre qui a explosé dans tous les sens.
Ah, il y a l'UDI,
voilà,
enfin bon, bref.
Exactement.
Mais quel sens aurait cette candidature aujourd'hui? En décembre, il pesait 8% dans les intentions de vote. Et je vais vous dire, de décembre à aujourd'hui, il a essayé d'exister par tous les moyens.
Oui.
Il a tapé sur Fillon, il a tapé sur Macron, les candidats de l'argent, etc. Dans les mêmes termes, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et il sort, 2 mois plus tard, à 4 à 5% dans les sondages. Donc dans la zone où, soyons prosaïques, pour faire une campagne électorale, il faut 10 millions d'euros. Donc il faut aller à la banque en disant, voilà, je suis candidat à l'élection présidentielle, je vais vous emprunter 10 millions d'euros, ça vous en rapportera 11 ou 12, parce que je vais faire au moins 5% à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il ne peut pas faire ça, tout simplement. Donc prendre ce risque-là me semble assez insensé, d'autant que effectivement l'appétence pour une candidature Bayrou est aujourd'hui proche de zéro.
4%, 4,5%, voilà, c'est pour ça. Ça vous intéresse, Daniel Simonet, finalement? Vous regardez aussi, finalement, ce qui se passe à droite, au centre, à gauche, pour voir s'il y a d'autres candidats et
bien
une
sûr,
personnalité
mais,
politique.
Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a finalement trois grandes offres politiques qui sont en débat cette élection présidentielle. Finalement, la règle brune avec le projet extrêmement nationaliste de Marine Le Pen, la règle d'or... qui est quand même plus incarné par Macron, c'est-à-dire l'ultralibéralisme européen qui accepte voilà les directives libérales européennes qui se moulent là-dedans, l'Europe de la finance, et puis par contre la règle verte que Jean-Luc Mélenchon, à travers la France insoumise, l'Avenir en commun, propose.
Même pas un peu rouge.
Quand on parle de la règle verte, c'est d'abord de considérer qu'il y a un intérêt général humain.
Oui.
Et évidemment, c'est adossé à une question de la redistribution des richesses, aux droits des salariés, voilà, à la défense des services publics. Donc finalement, Monsieur Bayrou, il va simplement être une candidature de plus à travers la règle d'or.
Ouais, c'est ça. Allez, voilà un domaine. On va parler d'un domaine assez étonnant où on n'attendait pas l'ubérisation. Alors, on connaissait les taxis, les réservations d'hôtels, l'écoute musicale et même des agences de détectives privées. Certains disent qu'il y a même des candidats à la présidentielle qui sont ubérisés. Désormais, l'ubérisation va frapper les radars routiers. Oui, les radars embarqués sont des appareils de contrôle de vitesse dans des voitures banalisées. Aujourd'hui, ce sont deux gendarmes ou deux policiers qui s'occupent des manœuvres. En septembre prochain, ce seront des sociétés privées qui seront chargées de signaler les excès de vitesse. Une manière de soulager les forces de l'ordre, d'augmenter le nombre de radars embarqués, sans, précise le ministère de l'Intérieur, que ces sociétés soient encouragées à une course aux chiffres, puisque ce sera encadré. Alors, en fait, la vraie question qui se pose derrière, c'est pas forcément d'être content ou non derrière les radars, mais de savoir si, pourquoi la police fait-elle appel à des sociétés privées. En tout cas, pour les automobilistes, ce n'est pas du tout cette question qui se pose.
L'intérêt quand même pour une boîte privée, c'est quand même de faire du fric, donc bon, voilà. Après, à voir.
Si ça passe par une société privée, je pense que ça va devenir du racket et du mécontentement pour tout le monde.
Ou s'il y a plus de monde qui flash les gens, ça va être compliqué de garder son permis.
Même si vous mettez des radars, les gens continueront de toute façon à conduire vite.
Alors l'idée, c'est pas de parler des radars ou pas, c'est de parler justement de ces sociétés privées. Je vois quand vous entendez aujourd'hui que la police nationale ou la gendarmerie, eh bien pour se délester de travail, peut faire appel à des sociétés privées. Est-ce que pour vous, c'est normal ?
Il faut que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas de sous-traiter à des sociétés privées. Il s'agit de faire conduire des voitures par des sociétés privées qui embarquent... Mais attendez, je peux terminer quand même. Qui embarquent des radars et les informations sont traitées, seraient traitées, puisque ça va être expérimenté à partir de vendredi. En Normandie.
Seraient
traitées comme elles l'étaient auparavant. Moi, j'observe qu'il y a eu 3469 morts l'an dernier sur les routes. 300 de plus que l'année précédente. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire les choses ou pas? Les voitures de police équipées de radars circulent 1h13 par jour. Comment fait-on pour optimiser ce matériel-là? Alors, je comprends bien que les automobilistes ne sont pas contents à l'idée de se faire verbaliser, moi le premier. Mais il faut regarder les choses en face. Il y a une dépense publique qui est mal utilisée. Il y a des morts, des drames, des familles qui sont détruites tous les jours à cause de ça. Il y a un moment, il faut choisir. Mais c'est un vrai débat.
Moi, ça me gêne de le dire parce que fondamentalement, je suis contre de transformer tous les conducteurs en criminels en puissance et qu'ils aient en permanence la police sur le dos. Mais la vérité, c'est que si on veut la philosophie sous-jacente de ces initiatives, c'est de faire que la police et la gendarmerie puissent faire leur travail, leur vrai travail. Est-ce que le travail de la gendarmerie et de la police, c'est d'aller contrôler en permanence les automobilistes sur les autoroutes? J'en suis pas absolument persuadé quand on constate partout une hausse de la criminalité, qui sont engagés sur des missions de terrorisme et tout ça. Donc, je pense que la philosophie sous-jacente, qui est de remobiliser les forces de police et de gendarmerie sur des vraies missions régaliennes, me paraît normale, quitte à déléguer à des sociétés privées, mais tout en constatant que c'est dérangeant que les automobilistes, une nouvelle fois, soient visés par...
Bruno Roger Petit, vous, justement, ce système, que ça soit aujourd'hui, d'employer finalement des sociétés privées, c'est là, en fait, vraiment la question. Est-ce que, finalement, ces sociétés privées peuvent faire ce travail?
Moi, j'entends bien tout ce que dit Michel Hurwatt, mais il a raison. Sauf que, moi qui suis un usager justement de la zone qui va être soumise à expérimentation, la Normandie, les autoroutes de Normandie, les sorties de Canapville, etc., je connais par cœur. Moi, je sais bien comment ça se passe. C'est-à-dire que, période de grande transhumance, et vous avez nos amis qui surviennent, qui se mettent à des positions stratégiques, ou par exemple, vous avez des sorties de bretelles, où en 40 mètres, vous devez passer de 90 à 50 à l'heure. Ce que, évidemment, est impossible à tout conducteur. Et donc, vous avez la cash machine, comme ça, qui éreinte un certain nombre de conducteurs, sans que ça ait un rapport quelconque avec ce qui, effectivement, est important, c'est-à-dire la lutte contre les vrais dingos qui mettent en danger la vie des gens, y compris sur cette autoroute de Normandie, parce que j'en vois plein. Seulement, ceux que je vois prendre des risques, qui zigzaguent entre les automobiles, eh ben ceux-là, je ne les ai jamais vus verbaliser. Jamais.
Une précision, les sociétés privées en question ne sont pas rémunérées en fonction du nombre d'excès de vitesse constatée et sont rémunérés en fonction du nombre d'heures effectuées sur la route.
Daniel Simonet, dans un instant, on aura votre position. L'info à 20h50, c'est Laurent Sénéchal.
Perquisition au siège du Front National dans le cadre de l'enquête pour escroquerie en bande organisée qui vise le parti d'extrême droite. Il est soupçonné d'avoir utilisé l'enveloppe destinée aux assistants parlementaires des eurodéputés pour rémunérer illégalement des employés du FN. Le Parlement européen a réclamé plus de 300 000 euros à Marine Le Pen. La candidate à la présidentielle a refusé de rembourser. Audition d'un témoin après l'explosion de milliers de bonbonnes de gaz à Jonquière dans le Vaucluse vendredi soir. Le parquet évoque un ancien employé qui se livre à un trafic de bonbonnes, mais il a, semble-t-il, un alibi crédible, annonce le procureur. Les enquêteurs ne savent toujours pas si les explosions sont dues à un acte criminel ou si c'est un accident. François Bayrou dira dans deux jours s'il se lance ou non dans la course à l'Élysée. Le dirigeant du Modem s'est éloigné durant la campagne du candidat Les Républicains, François Fillon, visé par une enquête pour détournement de fonds publics. François Bayrou a soutenu Alain Juppé pendant la primaire de la droite et du centre. Pas de rencontre entre Angela Merkel et Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, le président algérien est souffrant, une indisponibilité temporaire officiellement. Il est diminué depuis un AVC en 2013. La chancelière allemande est obligée de repousser sa visite dans le pays. Les États-Unis réclament des efforts financiers à leurs alliés au sein de l'OTAN. Le vice-président Mike Pence est à Bruxelles au siège de l'organisation militaire. Seuls 5 pays sur les 28 que compte l'OTAN respectent les objectifs budgétaires de l'Alliance Atlantique.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ces fameux radars embarqués qui pourraient déléguer donc à des sociétés privées plutôt que des gendarmes ou des policiers. On a bien compris la zone, je crois, c'est la Normandie. Si vous croisez Bruno Roger Petit là-bas, en tout cas, voilà, c'est sûr, vous serez dans la bonne zone. Daniel Simonet, vous avez beaucoup travaillé sur l'ubérisation et Uber. Est-ce que pour vous, là, on est dans un cas d'ubérisation ?
Pas forcément, parce que quand on parle d'ubérisation, on est vraiment sur la mise en relation par le biais d'une plateforme entre des clients et des auto-entrepreneurs. Bon. Mais en tous les cas, on est sur une privatisation qui est totalement inacceptable. Madame Hidalgo va faire la même chose, va privatiser la verbalisation du contrôle du stationnement. Je veux dire, faut que ça s'arrête, quoi. On arrête de privatiser, y compris les fonctions régaliennes de l'État.
Mais ce que disait Raphaël Saint-Ville, en même temps, de dire, finalement, aujourd'hui, on allège.
Parce que, au lieu de donner véritablement les moyens à la police de faire son travail, et puis aussi en termes de prévention, sécurité routière, de se rendre compte, par exemple, que une des problématiques numéro un, c'est l'usage, par exemple, du téléphone portable. Mmh. C'est beaucoup plus ça en ce moment, qui est la cause d'un bon nombre d'accidents. Donc, faisons les actions vraiment ciblées, faisons ce travail-là, plutôt que d'être dans une recherche peut-être de matraquage. Mmh. Et surtout, le recours au privé. L'automobiliste qui a été interrogé a tout à fait raison. Le recours au privé coûte toujours plus cher parce qu'une entreprise privée, ou pour faire quoi que ce soit, eh bien, a besoin de se dégager.
Moi, je trouve que les morts sur la route n'ont pas de prix.
Donc, tout après, à fait. Après, mais là, ce n'est pas les bonnes mesures qui sont prises.
Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Mais en tout
le
cas,
recours au privé est toujours plus cher.
Je trouve que la recherche de l'efficience de la dépense publique me paraît mériter quand même d'être un petit peu explorée, y compris dans ce domaine-là. Alors, si la réponse à chaque fois, c'est on dépense plus et donc on augmente les impôts, ok.
Mais le privé est toujours plus cher parce que le privé a besoin de dégager du profit.
Alors justement, Raphaël Saint-Ville, ce n'est pas le seul endroit finalement, la sécurité routière, hein, puisqu'on se souvient lors des manifestations policières cet automne, Bernard Cazeneuve avait éventuellement parlé d'une piste, c'était de possibilité par exemple de faire garder certains sites, comme les tribunaux, par des sociétés privées. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller aussi loin? Ça veut dire que là, des tribunaux pourraient être gardés par des vigiles, simplement, et non plus des policiers.
En fait, il faut peut-être, avant de phosphorer, de débattre dans tous les sens, écouter ce que disent les gendarmes et les policiers. Oui. Les gendarmes et les policiers ne sont pas hostiles à, justement, être déchargés d'un certain nombre de missions indues, et que ce soit, par exemple, le transport des détenus, que ce soit la sécurisation d'un certain nombre de sites. Alors, c'est les tribunaux, mais ça peut être également, par exemple, les grands parcs d'infractions qui sont aujourd'hui qui mobilise un certain nombre de policiers dans le contexte de qu'on connaît aujourd'hui, bien évidemment que ça peut être une solution, et en tout cas les policiers seraient assez favorables à ce genre de mesures visant à les décharger, délester d'un certain nombre de missions qui les détournent des vraies missions qui devraient les occuper.
Ouais, Bruno Roger Petit, pour vous, ça, c'est il y a un moment aussi, par exemple, faire garder un tribunal par des vigiles plutôt que des policiers. Voilà, imaginez que toutes ces fonctions-là, qui sont aujourd'hui de sécurité publique, ne serait plus de l'ordre du public pour le financement, ou ça peut vous choquer, ça peut vous parler, ou alors c'est peut-être l'avenir aussi, peut-être d'un service public qu'il faut préserver.
On est dans une période où la demande de protection de la part des Français est extrêmement forte, pas seulement protection sociale, économique, mais aussi protection donc vis-à-vis du terrorisme, du crime, de l'insécurité, etc. Je ne suis pas sûr qu'envoyer le signal de manière permanente que tout ce qui a trait à l'exercice des fonctions régaliennes puisse être délégué à des sociétés privées, y compris pour des critères économiques, ce soit une bonne solution et ce soit perçu de manière favorable. Je pense, pour en revenir au sujet du début, que dire que la verbalisation des infractions autoroutières de dépassement de vitesse va être assurée par des sociétés privées, c'est un mauvais signal.
Oui. C'est un mauvais signal. Ça veut dire quoi? C'est un signal d'abandon? C'est ça, en fait?
C'est un signal que... on va vous dire que c'est une machine à faire de l'argent sur le dos des conducteurs. Mmh. Et ça va être perçu comme tel. Et je pense que ce sera transversal. C'est-à-dire que de la gauche à la droite, tout le monde va le vivre comme ça. Avec un abandon, effectivement. Pour qu'une contravention soit juste, elle doit être dressée par un policier ou un gendarme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Ouais, ça. Michel Hurvoy, c'est vrai. Est-ce que finalement, aujourd'hui... est-ce qu'on déresponsabilise pas, enfin, par rapport à ça? Est-ce que finalement, ce fameux gendarme qui était à la peur du gendarme aujourd'hui, est-ce qu'on risque plus de l'avoir en se disant, tiens, ben, voilà, de toute façon, une caméra embarquée?
Et là, le gendarme, on le verrait pas de toute façon, enfin, à supposer que l'expérience, puisqu'il s'agit d'une caméra qui transmet des informations qui sont traitées au centre de traitement
des
de Rennes, d'ailleurs.
Voilà.
Donc, ça ne changera rien pour l'automobiliste.
Mais la perception est déjà mauvaise. Je vous parlais tout à l'heure du fameux carrefour de Canardville. Non, mais je prends juste cet exemple-là.
Non, parce que c'est important, le carrefour de Canardville.
Un jour, je me suis fait avoir. Voilà. J'ai dépassé, au lieu d'être à 110, j'étais à 117, ouais. 118. Alors, je sais, c'est pas bien, d'accord, je reconnais. Et avec la correction, on m'a dit, en fait, vous étiez à 111. Et j'en ai été pour 75 euros pour 1 km à l'heure constaté. J'étais extrêmement énervé. Et je pense qu'un certain nombre de conducteurs qui ont tous connu ça, beaucoup, sont extrêmement énervés. Mmh. Voilà.
En tout cas, c'est en test. Ça sera en test, Michel. Non, ça doit se terminer. Voilà. Mais en tout cas, on en parlera, j'imagine, dans West France, hein, puisque dans les éditions, on en
parle. Exactement, puisque c'est le sujet de demain matin.
De demain matin dans West France ?
Oui.
Incroyable.
Mais ça n'a pas été interviewé.
C'est incroyable, parce qu'on parle de l'actualité.
Mais en tout cas, vous aurez un témoin. Hein, la prochaine fois, vous l'aurez trouvé. Merci beaucoup.
Sur Canapville, je suis très heureux.
Merci à Bruno Roger Petit d'être passé ce soir. Merci à Daniel Simonet. Je rappelle aussi que vous êtes sur scène, figurez-vous. Avec un spectacle qui s'appelle Hubert, les salauds et mes ovaires. Et vous serez à Marseille. C'est ça, je l'ai noté quelque part dans ma
poche. Exactement, je serai à Marseille ce vendredi.
Ce vendredi, voilà, pour ce spectacle.
Et tous les dimanches à l'Apollo Théâtre.
Ce n'est pas qu'un spectacle politique, il faut le signaler. Merci beaucoup, Daniel Simonet. Raphaël Stainville, une de vers actuelles cette semaine. Est-ce que vous l'avez déjà en tête?
C'était Fillon, mais la semaine prochaine, c'est Macron.